Bienvenue dans Les Bonnes Choses, l'émission culinaire de France Culture qui aborde la cuisine comme fait culturel majeur. Les Bonnes Choses, c'est 30 minutes tout compris avec un plat du jour, une madeleine, une cerise sur le gâteau. Cerise sur le gâteau présentée aujourd'hui par Camille Labro. Bonjour chère Camille.
Bonjour Caroline.
Quelle chronique allez-vous nous faire aujourd'hui ?
Eh bien, je vais vous parler d'un paysan.
Ça tombe bien, nous aussi, vous allez le voir. Merci, à tout à l'heure Camille Labro. 12h25, cher Matteo Caranta, bonjour à vous.
Bonjour Caroline.
Matteo Caranta, vous vous occupez de la madeleine. Quelle madeleine aujourd'hui ?
Eh bien, j'ai rencontré la comédienne Audrey Bonnet qui est remontée pour sa madeleine sur plusieurs générations.
Son arrière-grand-mère, si je ne m'abuse. J'ai tout défloré. 12h15 pour la madeleine, à tout à l'heure. Quant à nous, à l'occasion du Salon de l'agriculture qui a ouvert ses portes hier, porte de Versailles à Paris, avec pour thème « L'agriculture vous tend les bras », eh bien nous allons nous tendre les bras à ceux qui travaillent la terre au quotidien, à savoir les agriculteurs. Certes, le nombre de paysans ne cesse de diminuer, leurs conditions de travail de se dégrader, les prévisions à moyen terme sont plutôt pessimistes, mais, on peut aussi considérer que le secteur agricole montre de nombreux signes de dynamisme, d'où l'importance de montrer l'agriculture telle qu'elle est. Qu'attend-on de nos agriculteurs aujourd'hui ? C'est la question qu'on va poser dans Les Bonnes Choses.
Pareil que t'es dans la merde ?
Qui t'a dit ça ?
Tout le monde le sait.
Non mais j'ai pas besoin d'aide.
Un paysan, ça refuse pas un coup de main. Mais si tu m'avais écouté, au lieu d'aller foutre la main dans le système, maintenant il te tienne !
Qu'est-ce que tu veux maintenant ? Hein ? Qu'est-ce que tu cherches ?
Là, regarde-moi sa tête, à celui-là. Regarde-le !
T'en es fier ?
T'en es fier ? Bah comment tu pourras en être fier ? Moi, de mes moutons, j'en étais fier.
Tes moutons ? Tu veux qu'on en parle de tes moutons piqués aux antibios ? Et tes veaux gonflés aux hormones ? C'est avec ça que tu t'es payé tes terres et ta baraque ? Tu étais jusqu'au cou dans le système ! Et maintenant, viens pas donner des leçons !
Je l'ai fait parce que j'avais décidé de le faire. Moi, au moins, j'étais libre !
Bonjour Guillaume Rio.
Bonjour.
Bienvenue dans Les Bonnes Choses. Vous êtes agriculteur, cultivateur de céréales et de légumineuses, éleveur de vaches, le tout dans les Deux-Sèvres, et vous présidez la Fédération Nationale de l'Agriculture Biologique.
Exactement.
Bonjour Sylvie Brunel.
Bonjour Caroline.
Bienvenue à vous, vous êtes géographe, vous avez été la présidente d'Action contre la faim, vous êtes aujourd'hui professeure à Sorbonne Université, et l'autrice d'un livre qui vient de paraître chez Bûcher Chastel, intitulé « Pourquoi les paysans vont sauver le monde ?» On entendait là un extrait du film d'Édouard Bergeon, « Au nom de la terre », qui est disponible en DVD depuis quelques semaines et qui est nommé aux Césars qui auront lieu vendredi prochain avec Guillaume Canet dans le rôle principal. Vous l'avez vu Sylvie Brunel ce film ?
Oui, je l'ai vu, il retrace bien les dilemmes aujourd'hui de l'agriculture, quel modèle choisir, comment vivre de son travail, comment être fier de son travail, comment nourrir ses concitoyens et puis ce drame aussi de cette agriculture qui aujourd'hui est confrontée au problème de la disparition brutale et tragique d'un certain nombre de ses protagonistes parce qu'ils n'arrivent plus à faire face.
Oui, la difficulté, l'évolution de la pénibilité du monde agricole et du métier même de paysan, c'est ce que vous vivez au quotidien en fait. Vous n'avez presque pas besoin de voir ce film finalement.
Je n'ai d'autant pas besoin de voir ce film que je l'ai vécu à titre personnel dans ma famille. Mes parents ont été, dans les années 70, victimes de ce système dit d'intégration industrialisé, poussé à son extrême, où mes parents ont eu jusqu'à 600 bovins sur 5 hectares avec aucune autonomie fourragère. Donc cette histoire, je la connais par cœur. Et malheureusement, j'ai pu voir se répliquer tout au long des décennies qui ont suivi dans mon entourage professionnel.
On entend dans ce film, en particulier, le père utiliser un mot en permanence que n'utilise plus beaucoup le fils. C'est le mot paysan. C'est le mot que vous avez utilisé,
oui.
D'ailleurs, Sylvie Brunel, pour votre livre. Pourquoi les paysans ? D'ailleurs, il est en jaune alors que le titre est en blanc. On le voit bien hein, sur la couverture même. On l'utilisait autrefois, puis il a disparu au profit du mot agriculteur. Et puis le revoilà sur le devant de la scène. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, Sylvie Brunel ? C'est un signe de quelque chose ?
Oui, paysan, pour moi, c'est une fierté, c'est une dignité. C'est l'idée qu'on est libre sur sa terre pour se nourrir, nourrir ses concitoyens, essayer de faire un bon travail, d'être heureux de ce métier, de ces animaux qu'on élève, de ces plantes qu'on cultive, de pouvoir les vendre. Et je trouve que malheureusement sur Terre aujourd'hui, le sort des paysans est extrêmement difficile. Les 3 milliards de paysans pauvres dans les pays du Sud sont souvent méprisés, exploités. Ceux des pays du Nord cherchent aujourd'hui une voie. Et c'est pourquoi le sous-titre de mon livre est la troisième révolution agricole, c'est-à-dire comment faire aujourd'hui pour répondre aux attentes nourricières de l'humanité tout en maintenant le prix de la nourriture accessible au plus grand nombre, parce que finalement les 800 millions de personnes qui souffrent de la faim, ce sont des pauvres, tout en préservant la nature, tout en fabriquant les paysages, tout en contribuant aussi à lutter contre le changement climatique qui exerce une véritable pression partout dans le monde sur les exploitations.
Guillaume Rioux, il y avait une fierté dans le mot paysan qui a disparu dans le mot agriculteur.
Dans le mot paysan, on retrouve l'idée du pays, l'idée des fonctionnalités du pays et donc d'un territoire, avec toutes ses caractéristiques, l'idée du terroir, avec des cultures, un système pédoclimatique, c'est-à-dire les interactions entre le sol, le climat et les savoir-faire ancestraux. Et je pense que ce terme est redevenu moderne, pleinement moderne, face au nom d'agriculteur, alors même que le terme agriculteur signifie quand même, dans ses racines, l'agronomie, ce qui est une science tout à fait noble, à condition qu'on la mette à distance de ce que peuvent devenir aujourd'hui des agro-managers. Mais l'agronomie, agriculteur est porteur de sens également, mais peut-être que les modernités contemporaines font plus appel à une forme de nostalgie et la paysannerie telle qu'on l'imagine ou telle que les citadins l'imaginent aujourd'hui est plus vecteur de sens, de moralité, d'éthique et d'avenir, tout simplement.
Sylvie Brunel, quand on lit votre livre « Pourquoi les paysans vont sauver le monde », on se dit qu'en fait, au fond, c'est comme un éloge de nos paysans, défense et illustration du métier même de paysan, d'agriculteur, de notre agriculture, de cette agriculture qui est à la fois performante mais aujourd'hui très maltraitée, comme si vous en aviez vraiment marre de ce qu'on appelle aujourd'hui l'agribashing.
Oui, je n'aime pas ce terme parce que c'est un néologisme un peu bizarre, mais c'est vrai que je ne supporte plus les critiques, la violence, le fait que dès qu'ils commencent à exercer leur travail, on leur en veut parce qu'il y a des machines, parce qu'il y a des bêtes, parce qu'il y a des mouches, parce qu'on voudrait finalement une espèce d'agriculture idéalisée qui renvoie à la nostalgie de notre enfance, dont on a banni tous les aspects négatifs, évidemment, et on ne voit pas qu'aujourd'hui, pour être un bon paysan, eh bien, il faut mobiliser un savoir-faire, une technique dans un contexte réglementaire de plus en plus exigeant, avec une concurrence internationale de plus en plus violente, que les agriculteurs perdent aujourd'hui leur territoire et que ce sont pour nous les sentinelles du changement climatique, les premiers écologistes de France, des gens fabuleux.
Et des mais ils ne sont pas tous écologistes, Sylvie Brunel, il y a paysans et paysans, il y a ceux qui nourrissent la terre mais en la détruisant, puis ceux qui protègent, la respectent.
Je pense que nous devrions abandonner cette vision caricaturale, parce qu'en réalité, tous les agriculteurs aujourd'hui, sauf évidemment certains qui ont renoncé, qui disent « je continue comme avant », mais tous ils s'interrogent aujourd'hui comment utiliser moins de produits, comment répondre à ces attentes des consommateurs qui veulent à la fois du beau, du bon, du pas cher, en toute saison, qui sont très préoccupés par leur santé aussi, et que ça soit les producteurs de pommes, les cultivateurs de maïs, les éleveurs de limousine, les polyculteurs, les bio, les conventionnels. Alors, le terme conventionnel qui est un terme très choquant parce que finalement on a l'impression qu'il n'évolue pas. Et finalement je vois un monde qui s'interroge, qui a un tournant de son histoire, qui a toutes les solutions en matière d'écologie et de développement durable et que nous persistons à enfermer dans une caricature. Et c'est ça, vous avez raison, c'est un cri de douleur peut-être aussi de voir à quel point nous sommes en train de désagriculturaliser la France parce que nous ne connaissons plus nos paysans.
Guillaume Rioux, vous ressentez les choses comme si il existait aujourd'hui deux modèles qui s'opposent et avec la volonté presque œcuménique aujourd'hui de Sylvie Brunel de les rassembler. Est-ce que c'est possible de les rassembler déjà ?
Je pense que notre diagnostic, il est commun. Les réponses, le traitement ne sont pas les mêmes. Il y a une attente formidable de nos concitoyens sur une alimentation avec une mise à distance de leur savoir, une mise à distance géographique, une mise à distance sociale qui génère une forme de curiosité absolue et on le voit d'année en année, le succès croissant du salon de l'agriculture. Moi je trouve que c'est porteur de sens et très révélateur d'une perte de confiance, évidemment, d'une mise à distance et il faut qu'on trouve dans notre métier les réponses à donner. Moi il me semble, cette fameuse agribashing, moi je ne le vis pas. C'est tout le paradoxe. Le problème, c'est que le rapport numérique s'est inversé au fil des décennies. Là où, au début du siècle dernier, 50% de la population était en milieu rural et exerçait des activités rurales ou agricoles ou péri-agricoles, aujourd'hui, nous ne sommes plus que 450 000 paysans, une forte décroissance, on va probablement descendre malheureusement à 300 000 paysans. Donc, il y a un rapport qui s'est inversé. Et donc, il n'y a plus une légitimité absolue du noyautage de la République, par exemple, mais une nécessité pour les agriculteurs, pour les paysans, les paysannes, de mettre en conformité leurs pratiques avec l'attente citoyenne. Et puis, que lorsqu'on utilise dans nos revenus aujourd'hui, un éleveur bovin viande, 200% de son revenu, c'est pas facile à comprendre, provient de la politique agricole commune. Un céréalier, c'est 40% en moyenne. Je crois qu'on pourrait dire qu'il y a un certain nombre de devoirs aussi à l'égard de nos concitoyens. Et puis, c'est vertigineux. Lorsque l'on comprend que nous serons demain plus que 0,2-0,1% de la population pour nourrir 99,8 autres %, moi je trouve ça vertigineux. La responsabilité est énorme. Et donc ça donne à grand pouvoir aussi une concentration des pouvoirs qui doit interroger sur le plan sociologique, sur le plan philosophique. Et imaginer que demain on puisse vivre ensemble, entre corporatistes agricoles, face à l'ensemble de la planète ou face à l'ensemble de notre pays, de notre nation, au sens de la cohésion de la nation, c'est absolument impensable. Donc il faudra absolument, et nous avons commencé à le faire en agriculture biologique depuis très longtemps, aller vers les consommateurs, les citoyens, et leur fournir ce qu'ils attendent. C'est aussi ça le service public.
Sylvie Brunel.
J'entends tout à fait ce que dit Guillaume, mais je suis d'accord avec lui, mais je n'apporte pas les mêmes réponses. C'est-à-dire que l'agriculture biologique, elle a toute sa place, notamment pour valoriser des milieux difficiles, pour des pentes, pour des petites exploitations en périurbain. Mais il faut bien comprendre que cette agriculture mobilise beaucoup de moyens, notamment parce que comme on se passe des produits de traitement, eh bien on va être obligé de les compenser soit par du travail manuel, soit par des machines, c'est-à-dire utiliser donc plus d'énergie et rejeter plus de gaz à effet de serre. C'est une alimentation qui ne se conserve pas, qui coûte plus cher. Donc je pense qu'elle a absolument toute sa place, mais en
localement,
tant,
mais pas
en
généralement.
Non, en tant que niche, c'est-à-dire que cette agriculture biologique, elle ne peut être réservée qu'à des agriculteurs spécifiques sur des milieux spécifiques, mais si toute la France passer à l'agriculture biologique, eh bien, d'abord, nous utiliserions énormément de territoires. Nous serions encore plus importateurs de nourriture, c'est-à-dire que nous importerions de pays qui ne sont pas du tout aussi parfaits que nos agriculteurs sur le plan social et sur le plan environnemental, des produits de plus en plus douteux. Et d'ailleurs, le bio lui-même subit aujourd'hui, au nom de la bioéquivalence, une concurrence déloyale de gens qui se disent bio et qui, en réalité, vendent n'importe quoi en France. Et je pense que nous avons besoin d'une agriculture compétitive parce que, à nos portes, nous avons des façades maritimes en Afrique du Nord et au Moyen-Orient où les gens sont extrêmement dépendants de nos importations, où le prix de la nourriture conditionne la paix sociale. On voit bien, hein, dès que le prix de la nourriture augmente dans ces pays, c'est la révolution. Et on a en France plusieurs agricultures, mais notamment une agriculture très compétitive, une agriculture céréalière, une agriculture de pommes, une agriculture d'élevage, qui est absolument nécessaire pour garantir notre sécurité stratégique et notre sécurité aussi en termes économiques, parce que c'est aussi l'excédent de la balance commerciale française.
Guillaume Rioux, le bio doit rester une niche.
Ben vous l'aurez compris, avec Sylvie, on n'est pas exactement d'accord. Et nos propositions, le traitement proposé au mal-être de l'agriculture française n'est pas le même. Certains, dont Sylvie fait partie, s'inscrivent dans le mercantilisme, finalement.
Ouh, le gros mot, Guillaume. Guillaume, vous ne cherchez pas à gagner votre vie, vous,
non,
peut-être.
Non, non.
En bio,
non,
on attendez, vend la tonne de blé 450 euros la tonne.
Sylvie,
en conventionnel, 110 euros la tonne.
Le mercantilisme au sens de la relation internationale avec l'enrichissement.
La mondialisation.
La mondialisation.
Oui,
mais c'est bien le mercantilisme. C'est une théorie économique du XVIIe siècle, qui se veut exportatrice pour laisser un ratio, un PIB français avantageux, un excédent brut commercial avantageux pour la France. C'est pas notre idée. Nous, on pense que les souverainetés alimentaires des populations sont absolument universelles. Alors que l'Afrique saharienne, que l'Afrique du Maghreb ne puisse pas se nourrir, chacun peut le comprendre. Et là, il faudra trouver des solutions. Effectivement, malheureusement, nous pensons que c'est pas la France avec ses 20 petits millions de tonnes d'exportation sur les ports.
Elle fait partie du top 5 des grands exportateurs
bien
de céréales.
Sûr. Mais nous, notre proposition, c'est une agriculture nourricière pour nos territoires.
Oui, mais c'est très égoïste. Et en plus, il y a 9 millions de Français qui ne mangent pas à leur faim,
pensez,
et pour lequel le prix de la nourriture est essentiel. Et moi, ça m'inquiète.
Que la France pourra nourrir la planète, c'est une erreur
arithmétique. Pas la planète, mais son environnement géographique.
Pourtant, on l'entend bien régulièrement, il faut que nourrir le monde. Si le monde avait dû être nourri par nos exportations, depuis le temps qu'elles existent, je pense que ça serait fait.
C'est fini, hein, le temps où il suffisait de travailler comme un forçat. Je suis un entrepreneur, moi, j'investis. Je m'adapte au marché, je vais de l'avant, que ça te plaise ou non.
L'entrepreneur. Ça, c'est la meilleure. Nous, on est des paysans.
Allez, on fait une pause dans votre débat, Guillaume Rioux ou Sylvie Brunel, pour écouter La Madeleine, faite par Matteo Caranta, comme chaque semaine.
Oui, la pause culturelle. Audrey Bonnet qui a fini cette semaine la longue tournée d'architecture de Pascal Rambert, présentée pour la première fois cet été pendant le Festival d'Avignon. Audrey Bonnet qui prépare en ce moment Andando, un concert théâtral où six comédiennes chantent et scandent les vers sensuels et politiques du poète andalou Federico Garcia Lorca. Ce sera ce printemps au Bouffe du Nord, à Paris. Mais pour sa Madeleine, la comédienne n'est pas aller jusqu'aux confins de l'Andalousie, bien plus proche, au cœur de l'Aveyron, dans la terre de son arrière-grand-mère.
Ma Madeleine, c'est la soupe de mon arrière-grand-mère. C'est une soupe qui était faite dans l'Aveyron, très tôt le matin. Et j'ai toujours l'obsession de retrouver le goût de cette soupe que j'ai essayé de faire, que j'ai demandé à ma mère de faire, et j'ai jamais retrouvé le goût. Et il n'y a pas longtemps, j'étais à Rennes en tournée, et on est allé dîner après, et j'ai pris une sorte de... Ça devait s'appeler un minestrone, quelque chose comme ça. Et il y a quelque chose dans ce minestrone qui m'a fait un effet... Ça m'a submergée, j'ai tout eu en même temps. J'avais les larmes aux yeux et mon cœur, quoi. Mon cœur s'est emballé avant même que ce soit monté à mon cerveau pour me dire « C'est ça, c'est parce que c'est ce goût-là. » C'est exactement le goût de la soupe de mon arrière-grand-mère. Il y avait des petites pommes de terre dedans qui, à force de cuire, donc des pommes de terre, des terres de l'Aveyron, qui ne sont pas n'importe quelle pomme de terre, qui, à force de cuire... et d'être tourné dans la soupe, devenait comme des petits galets, ça faisait des petits ronds. Et il y avait le fumet, parce qu'elle le faisait dans sa vieille maison, au-dessus de la cheminée, donc ça avait un goût de fumée. À l'intérieur, il y avait de la ventrèche. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Le bouillon devenait un petit peu flou et opaque, et pareil, restait dans la bouche, c'est-à-dire déposer des tout petits grains minuscules de pommes de terre, donc qui se déposaient partout dans la bouche, sur le palais. C'était très fort en fait, ça se mettait partout, mais au-delà des papilles, ça se mettait dans l'odeur, ça faisait partie de l'odeur de cette maison. Mon arrière-grand-mère, elle bêchait son jardin, elle s'occupait de la ferme avec mon grand-père jusqu'à 96 ans. Elle la faisait le matin et continuait à faire la soupe avec ce qui restait. Si elle restait vraiment trop longtemps, elle était donnée aux animaux. Elle en mangeait à 5h du matin avant d'aller travailler. À midi, une sorte de goûter, enfin pour se réchauffer ou pour reprendre des forces à manger. Et on a mangé le soir, on a mangé à tous les repas. Et donc moi, j'ai mangé qu'en vacances, quand j'y allais, été comme hiver. C'était merveilleux. Moi, je me mettais des fois à manger de la soupe le matin. Enfin, je laissais tomber les tartines et ça commençait par dans le lit sous l'énorme édredon, l'odeur de la soupe qui prédominait sur l'odeur du café. Et j'adorais, quoi, mon arrière-grand-mère qui faisait une pause, elle, alors que nous, on se réveillait. Elle faisait son premier break, ça devait faire 3 ou 4 heures qu'elle était levée. Et elle venait, elle nous racontait, voilà, le temps qu'il allait faire, comment était la terre, comment était le ciel. Et puis elle repartait travailler. C'était jamais le temps des vacances pour elle. Je pense que c'est un mot même qui n'avait pas de contour pour elle, dans son corps et dans son âme.
Alors le travail du paysan jour et nuit, été comme hiver, merci beaucoup Matteo Caranta. C'était peut-être une époque, l'époque de l'arrière-grand-mère d'Audrey Bonnet, pendant laquelle on ne se demandait pas si la soupe était bio ou pas bio. En tout cas, sur le bio ou pas bio, on va pas vous réconcilier, Sylvie Brunel et Guillaume Rioux. Mais en revanche, je voudrais qu'on insiste sur ce que vous appelez, Sylvie Brunel, la troisième révolution agricole, et voir si là-dessus vous seriez d'accord. Passer les deux premières, 18e, 19e siècle pour la première, juste après la Seconde Guerre mondiale pour la deuxième. Vous dites que la troisième doit réconcilier écologie et agronomie, économie et sociale, ferme et firme. Une fois qu'on a dit ça, je pense que même Guillaume Rioux peut être d'accord. Est-ce que ça voudrait dire, Sylvie Brunel, que le principal défi, ce serait peut-être de retrouver, je ne sais pas, le sens du métier de paysan, au fond.
Mais c'est ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire qu'après la Seconde Guerre mondiale, il ne faut pas oublier qu'on avait faim en France. On était très dépendants. Il y avait 4000 morts par an en 1960 de contamination alimentaire. L'espérance de vie était de 65 ans. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on veut? On pense qu'on a résolu le problème de la quantité et qu'il faut se préoccuper de la qualité et de l'écologie, ce qui est tout à fait légitime. Mais il ne faut pas non plus sacrifier la quantité. C'est-à-dire que on a toujours besoin d'une agriculture compétitive, performante, y compris en France, parce que qu'est-ce que demande le monde ? 1 milliard de tonnes de céréales en plus d'ici 2050, des gens qui vont pas retourner vivre dans les campagnes. Pour Guillaume qui travaille dans son exploitation, qu'il fait avec amour, etc., il y a énormément de gens en ville qui ont besoin d'avoir une alimentation sûre en toute saison et qui n'ont pas forcément les moyens de s'offrir une nourriture élitiste. Or, l'agriculture aujourd'hui en France est une agriculture qui a réussi à faire de nous les gens qui vivent le plus longtemps au monde. Et on voit bien qu'on est confronté à une pression parasitaire énorme. Le virus de la tomate, le coronavirus, on sait l'olivier qui est attaqué par la Xylella fastidiosa, les cerises. Alors, ça veut dire qu'il faut apporter des réponses. Et aujourd'hui, moi, je suis convaincue que le bio et ce qu'on appelle le conventionnel, qui nourrit quand même 9 dixièmes des Français, travaillent ensemble, ils expérimentent ensemble des solutions pour répondre à tous ces défis. Et je pense qu'il ne faut plus opposer les modèles, il faut les associer. Parce que le bio, privé de la protection du conventionnel, sera submergé par la pression parasitaire.
Guillaume Rioux.
La question est de savoir si notre agriculture va pouvoir continuer longtemps sur le mode de l'extractivité fossile, d'une part, de l'extractivité minière de l'autre. Et en ce moment, la quatrième révolution, on entend parler d'agriculture 4.0, est basé essentiellement, voire fondamentalement, sur le culte technologique, avec la numérisation, etc. Moi, je pense qu'il y a une autre solution. C'est ce qu'on appelle les solutions fondées sur la nature. Comment imaginer, et ça a très bien été décrit dès 1971 par le MIT, par les équipes de Dennis Meadows, avec The Limit to Grow, la fin de la croissance éternelle. Donc, nous n'aurons pas d'autre choix que de travailler en bonne intelligence, en coopération avec les éléments de la nature, sur les grands cycles de carbone, les grands cycles d'azote, qui sont les cycles naturels fondateurs de l'agriculture et de notre alimentation. Imaginez qu'on va pouvoir consacrer une part de nos revenus toujours plus importante au culte technologique à travers les satellites, etc. C'est une profonde erreur. La solution, elle est humaine, elle n'est pas technologique.
Guillaume Rioux, vous êtes, vous, agriculteur. D'un côté, vous avez le monde politique. De l'autre côté, vous avez les consommateurs. Il se trouve que les politiques sont aussi des consommateurs, évidemment, bien sûr. Mais on est en période de salon de l'agriculture. C'est un moment où les politiques et les consommateurs s'intéressent encore plus près que d'habitude à tout ce qui touche à l'agriculture. L'année dernière, pour l'ouverture du salon de l'agriculture, les exploitants bio avaient attaqué le ministère de l'Agriculture en justice pour retard de paiement de leurs aides. Alors, première question, est-ce que vous avez été payé ?
Oui, à 95%, les problèmes sont réglés. Il reste quelques dossiers dans les campagnes pour des problématiques d'instruction administrative, mais on peut considérer que c'est pratiquement rentré dans l'ordre. Je dis pratiquement parce que dans le diagnostic de la PAC actuelle, on n'est pas tout à fait d'accord et ce qui présage les solutions pour la PAC à venir. Je pense que l'action publique devra continuer d'investir sur des modèles tels que celui de l'agriculture biologique pour atteindre d'ailleurs ces perspectives gouvernementales, doublement des surfaces, 15%, alors qu'aujourd'hui on est à 8% de la surface agricole utile en bio dans notre pays. Donc il faudra y consacrer des moyens publics importants.
La deuxième question qui porte sur cette année, puisque l'année dernière c'était quand même un coup d'éclat juste au moment du salon de l'agriculture, est-ce que le fait que la Fédération nationale de l'agriculture biologique que vous présidez vient de lancer un label bio français équitable rentre dans le cadre d'un coup d'éclat de cette année ?
C'est pas un coup d'éclat, nous travaillons main dans la main avec la maison Picard, puisqu'elle est sous-entendue, congélation, pour essayer de faire une proposition de développement de l'agriculture biologique. Aujourd'hui, 80% des gens habitent en ville. Ils vont faire leurs courses dans les GMS, etc.
Donc,
si on veut développer la bio, ça passera aussi par ces canaux-là. Et on a un certain nombre d'expériences européennes, notamment allemandes, qui nous montrent qu'on peut mettre tous les moyens là-dessus, tout en conservant une agriculture avec une distribution en vente directe, en circuit spécialisé, etc. Et en rémunérant correctement les agriculteurs. La question est de savoir si on ne veut faire de cette question de l'agriculture biologique qu'une question marchande ou si on veut faire une question politique. Mais peut-être que ce sera la conclusion de notre...
Ou la conclusion, ou le sujet d'une prochaine émission des bonnes choses, puisque cette émission arrive quasiment à son terme. Juste avant de vous laisser, je voudrais que vous écoutiez avec nous la cerise sur le gâteau qui fait le portrait d'un agriculteur paysan. Quelqu'un, Camille Labro, qui ne sera pas au Salon de l'agriculture, mais qui représente ce que l'agriculture pourrait ou devrait, vous me dites, être aujourd'hui.
Oui, Caroline, je pense qu'il va vous plaire, Guillaume. Peut-être moins Sylvie. Il s'appelle Jean-Martin Fortier. Il est québécois. Et c'est pour moi un véritable révolutionnaire de la terre. Il a créé, il y a 20 ans, une petite ferme maraîchère à une heure au sud de Montréal, juste à la frontière du Vermont. Ça s'appelle les Jardins de la Grelinette, du nom d'un outil pour ameublir la terre sans la retourner. Sur moins d'un hectare, sa ferme compte un étang, des haies, des arbres et beaucoup de légumes, cultivés selon des méthodes dites bio-intensives. C'est-à-dire une production dense, foisonnante, des rotations de culture sur des petites surfaces, le tout sans aucun intrant chimique. Le secret, c'est évidemment du travail et de l'organisation, mais surtout pas de tracteur. C'est ainsi que Jean-Martin, sans se ruiner en gros équipements, a pu créer 4 emplois et nourrir avec une surface plus petite qu'un terrain de foot, près de 200 personnes chaque semaine, générant jusqu'à 100 000 dollars de chiffre d'affaires, tout en prenant 1 à 2 mois de vacances par an, hiver rude québécois oblige, et en faisant bénéficier tous les travailleurs de sa ferme d'une vraie qualité de vie. Pas sûr que les agriculteurs conventionnels industriels puissent en dire autant. Même s'il a les mains dans la terre depuis 20 ans, Jean-Martin est ce qu'on appelle un néo-paysan. Il n'est pas du sérail. Il a grandi en milieu urbain, avec des parents qui, selon ses dires, n'en avaient que faire de comment on se nourrit, ni de l'avenir de la planète. Mais lui aime la nature, étudie l'écologie, veut contribuer à un monde meilleur et décide, au début des années 2000, de monter sa micro-ferme bio avec sa compagne Maud Hélène. Il s'inspire énormément des préceptes d'Eliot Coleman, paysan pionnier aux États-Unis qui milite pour l'implantation de petites fermes bio sur tous les territoires. Le même qui, en France, a inspiré la fameuse ferme du Bec-et-Loin en Normandie. Au Québec, Fortier est devenu une star. Son manuel très technique, Le jardinier maraîcher, s'est vendu à près de 200 000 exemplaires. Il vient de faire l'objet d'une série télévisée en 20 épisodes très suivie, intitulée Les fermiers, et sa masterclass en ligne fait un tabac. Et il y a 5 ans, Jean-Martin Fortier s'est lancé dans un nouveau défi. Créer une ferme bio à plus grande échelle, qui soit aussi rentable que nourricière et régénératrice pour la terre. Ça s'appelle la ferme des quatre temps, qui forme chaque année une dizaine de nouveaux fermiers et produit de magnifiques légumes, viande et œufs sur 60 hectares au total, en montrant à ce à quoi pourrait ressembler la ferme de demain. Car pour Jean-Martin Fortier, le modèle agricole actuel est un cul-de-sac. Il est urgent de tout réinventer et de prouver que ça peut marcher. À ceux qui disent que ce n'est pas avec des micro-fermes bio qu'on nourrira le monde, il rétorque « si, justement, ce sont déjà des fermes familiales qui dans le monde nourrissent vraiment les gens. Et d'ailleurs, la question n'est pas de nourrir le monde entier, dit-il. Il faut avant tout subvenir aux besoins de sa communauté. Et si l'on multiplie les petites fermes comme la sienne partout ?» Toutes les communautés auront à manger. C'est aussi simple que ça. Et ça, c'est une révolution maraîchère.
Merci Camille Labreau. Juste une courte réaction à ce que vous venez d'entendre. C'est aussi simple que ça, Sylvie Brunel.
C'est tout à fait admirable, mais ce n'est pas comme ça qu'on nourrit le monde. Les grandes cultures, c'est 1,6 milliard d'hectares dans le monde. Nous vivons dans un monde de mégalopole. Les villes sont incroyablement dépendantes de leurs importations. Sans l'agriculture puissante, Paris meurt de faim.
Plus d'arguments pour ceux et celles qui le souhaitent dans votre livre « Pourquoi les paysans vont sauver le monde » Sylvie Brunel, qui vient de paraître aux éditions Buchet-Chastel. Un grand merci à vous, Guillaume Rioux, d'être venu ce midi dans
merci.
Les bonnes choses.
Et l'agriculture, l'alimentation est une question politique, au-delà d'être une question de commerce et une question marchande.
Absolument. Tout à l'heure, Aurélie Luneau sera en direct du Salon de l'agriculture pour parler du mal-être des paysans avec Rodolphe Marconi, qui a réalisé un film qui va sortir mercredi prochain, le documentaire « Cyril, agriculteur, 30 ans, 20 vaches, du lait, du beurre, des dettes ». Il témoigne aussi dans le 1 cette semaine sur les jeunes qui choisissent la terre. Et puis toute la semaine, de demain à vendredi, le cours de l'histoire de Xavier Mauduit à 9h aura pour thème « Il faut nourrir le peuple ». Les bonnes choses se poursuivent en réécoute et en podcast sur le site de France Culture. Toute l'équipe, Roxane Poulain, Stéphanie Villeneuve, Mathéo Caranta, Jean-Christophe Francis et notre technicien du jour, Théo Gomard, vous souhaite un excellent dimanche à l'écoute de France Culture. Dans un instant, c'est le journal, suivi de Signes des Temps par Marc Weitzmann.